Vous écoutez On lit pour vous.
L'éducation sexuelle à la suédoise, un texte de Léa Carrier, paru le 17 mars 2024 dans la presse. Promouvoir le bien-être sexuel. Stockholm. Je me souviens d'une comptine. Ça vous dit quelque chose? Elle parlait des parties intimes. Vous savez, le dessin animé de pénis décrit Vilgo. L'adolescent n'a pas besoin d'en dire plus. Autour de la table, ses camarades de classe éclatent d'un rire nerveux. Évidemment qu'ils s'en souviennent. « Comment s'appelait-elle déjà ?» demande Maja au visage poupin. « Ça fait longtemps. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Elle jouait aussi à la télévision, non ?» renchérit Malte, blond cendré au teint clair. En quelques clics, Vilgo retrouve la chanson sur YouTube. C'est ça, Schnoppen och Snippan, s'exclame en suédois l'adolescent, ses joues virant au rouge. Traduction libre, Zizi et Zézette. À l'écran, un pénis coiffé d'un chapeau et une vulve aux longs cils recourbés danse sur une mélodie joyeuse. D'ailleurs, la vidéo, qui date d'il y a une dizaine d'années, avait été critiquée non pas pour son contenu explicite, mais pour ses représentations stéréotypées. « Ils sont si différents et pourtant si semblables », chantent les deux protagonistes de la vidéo, vue plus de 10 millions de fois. La scène se déroule dans un local de l'école secondaire Ekens, petite bâtisse perchée au sommet d'un bois, dans le sud de Stockholm. Répondant à une question de notre journaliste, 4 élèves, tous âgés de 15 ans, se remémorent en gloussant leurs premiers souvenirs d'éducation sexuelle. La Suède est régulièrement citée parmi les pays ayant le meilleur programme d'éducation sexuelle au monde, qui est obligatoire dès le primaire depuis 1955. Je dirais qu'il y a une affirmation que les humains sont des êtres sexuels, souligne Auli Arvola Orlander, chercheuse à l'Université de Stockholm. Le soir s'installe tranquillement sur le campus, un grand terrain gazonné, traversé par des allées de dalles et des étudiants pressés. Le pire de l'hiver est derrière, les journées commencent à allonger. Dès le 19e siècle, en Suède, les premières leçons d'éducation sexuelle documentées remontent à la fin du 19e siècle. Elles étaient données par Carolina Widerström, première femme à obtenir son diplôme de médecine au pays, qui a publié, à la même époque, un manuel illustré traitant de la santé sexuelle des femmes. Même l'Association suédoise pour l'éducation sexuelle existe depuis près d'un siècle. Aujourd'hui, elle compte près d'une centaine d'employés et une vingtaine d'antennes dans le pays. La Suède a une longue histoire en matière d'éducation sexuelle, note Madame Orlander, et elle transparaît encore aujourd'hui. Dans la population, il y a consensus. On sait l'éducation sexuelle importante, cruciale même. On lui reconnaît des bienfaits, et dès le plus jeune âge. Les enfants sont toujours amoureux de quelqu'un. Les sentiments, les relations font aussi partie de l'éducation sexuelle, fait valoir Madame Orlander. Je me sentais préparée. En Suède, l'éducation sexuelle est considérée comme une matière transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle est la responsabilité de tous les enseignants. Elle ne relève pas seulement du professeur de sciences ou de l'infirmière de l'école, comme c'est souvent le cas. Elle est intégrée dans toutes les matières, explique Teresa Fernandez-Long, directrice de l'éducation à l'Agence nationale suédoise pour l'éducation. Des exemples? Lire un roman centré autour d'une relation homosexuelle en langue seconde. Calculer la prévalence de maladies transmissibles sexuellement en maths. Ou encore, étudier les lois suédoises régissant les relations en éducation civique. Dès le primaire, les écoles ont la responsabilité de veiller à ce que les élèves discutent de manière répétée des questions relatives à la sexualité, au consentement et aux relations au cours de leur scolarité, précise le curriculum. Ce modèle a été choisi pour diverses raisons. D'abord, parce que l'on considère que l'éducation sexuelle touche toutes les sphères de la société et doit être enseignée selon ses nombreuses perspectives, mais aussi parce qu'il assure que tous les élèves aient accès à l'éducation sexuelle, et ce, même dans les cas où les parents s'y opposent. Si vous n'avez qu'une seule leçon, il est facile de l'éviter. Ici, l'éducation sexuelle est intégrée à l'éducation. Elle revient sans cesse, sous différentes formes, nous dit Teresa Fernandez-Long. Vous écoutez « L'éducation sexuelle à la suédoise », un texte de Léa Carrier, paru le 17 mars 2024 dans la presse. Tout le monde va passer par là. De retour à l'école secondaire Ekens. Du couloir, le silence laisse place à des rires au perché, indiquant l'heure de la pause. Je me sentais préparée à ce que j'allais traverser. Conflit, Sonja, au sujet de la puberté. Ses camarades de classe opinent de la tête. Eux aussi sont satisfaits de leur éducation sexuelle, même qu'ils n'y changeraient rien. À leur école, un semestre complet de 5 semaines est consacré à l'amour et à la sexualité pendant le grade 8, l'équivalent de la 2e secondaire. Durant cette période, les profs de toutes les matières doivent aborder ces thèmes d'une manière ou d'une autre. L'année précédente, les élèves ont bénéficié d'une heure toutes les 2 semaines avec la conseillère pédagogique pour discuter de tout ce qui a trait à l'adolescence, y compris la sexualité. Les questions liées aux diversités sexuelles et de genre sont aussi abordées. Ici, il y a une grande ouverture par rapport à la sexualité. Peut-être parce que nous en parlons à l'école dès un jeune âge, avance Maja. Ses camarades savent que c'est loin d'être pareil partout. Qu'ailleurs, l'éducation sexuelle se résume souvent à enseigner aux jeunes à mettre un condom. Qu'une comptine sur les parties génitales passerait mal, ou ne passerait tout simplement pas. Et c'est bien dommage, estime Malte. La puberté, la sexualité, tout le monde va passer par là. C'est important d'en parler, croit l'adolescent, et de comprendre que tout le monde est différent et n'a pas la même sexualité ou identité, ajoute Vilgo. Des améliorations possibles. Tout n'est pas parfait pour autant. Il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, concède Auli Arvola Orlander. Plusieurs intervenants observent que ce ne sont pas tous les enseignants qui font l'effort d'intégrer l'éducation sexuelle à leur matière. De plus, ils sont nombreux à ne pas se sentir suffisamment outillés pour animer ces discussions délicates en classe. Mais cela devrait changer. Depuis peu, tous les futurs enseignants doivent être formés en matière d'éducation sexuelle durant leur parcours universitaire. Seuls les enseignants de l'école intermédiaire, 8 à 12 ans, y étaient auparavant formés. On s'est battu pour cela pendant des années, se réjouit Hans Olsen, conseiller principal à l'Association suédoise pour l'éducation sexuelle. C'était absurde d'avoir une matière obligatoire, mais pas de formation obligatoire, fait-il valoir. En Suède, le taux de grossesse durant l'adolescence est presque nul. La prévalence des maladies transmissibles sexuellement est en baisse depuis des décennies. Mais ce n'est pas ce qui importe le plus aux yeux de Hans Olsen. L'éducation sexuelle n'est pas seulement la prévention de risques, c'est aussi la promotion d'un bien-être sexuel, tel que le souligne le curriculum. Et c'est ce que tendent à démontrer les sondages. Lorsqu'on interroge les jeunes sur leur premier rapport sexuel, ils répondent généralement qu'ils l'ont fait parce qu'ils le voulaient, qu'ils étaient sobres et qu'ils étaient plutôt satisfaits dit Hans Olsen. Les enseignants rapportent aussi que l'éducation sexuelle contribue à améliorer l'atmosphère en classe. Il semble que les élèves se comprennent mieux et se respectent davantage, explique M. Olsen. Avec l'éducation sexuelle, les jeunes se responsabilisent. Ils disposent des outils pour choisir. Ils reconnaissent quand leurs limites sont violées. Ils savent prendre soin d'eux-mêmes, conclut-il. Veillez à la santé sexuelle des jeunes. La Suède compte 300 cliniques pour jeunes réparties sur son territoire, qui compte une population similaire à celle du Québec. Destinées aux 13 à 25 ans, ces cliniques offrent des services de contraception, de dépistage ou encore de consultation dans l'objectif de veiller à la santé sexuelle des jeunes. Financées en majorité par les municipalités, elles peuvent aussi conseiller les jeunes sur leurs problèmes liés à la sexualité, à la santé et aux relations interpersonnelles. La Suède se classe au 5e rang du plus récent classement sur l'égalité des sexes du Forum économique mondial. L'Islande occupe la première place. Le Canada, lui, se classe au 30e rang. Parler de sexualité à tous. Une réunion de dernière minute s'est ajoutée à son horaire, explique-t-il par-dessus le brouhaha de la cafétéria. C'est une semaine occupée pour le conseiller principal à l'Association suédoise pour l'éducation sexuelle qui nous reçoit un après-midi gris dans ses bureaux de Stockholm. C'est Sex Week. Tous les mois de février, l'organisation anime pendant 5 jours des séminaires sur divers thèmes de l'éducation sexuelle. Cette année, plus de 800 personnes, en majorité des enseignants, se sont inscrites. Au programme, comment adapter l'éducation sexuelle aux jeunes vivant avec une déficience intellectuelle et aux nouveaux arrivants, comment déconstruire les normes de masculinité, expliquer le consentement. En Suède, l'organisation est la référence en matière d'éducation sexuelle. Le gouvernement la consulte, les écoles la sollicitent, les élèves la connaissent. Chaque année, elle rencontre en moyenne 20 000 d'entre eux dans le cadre de ses activités. Il arrive d'ailleurs régulièrement qu'elle reçoive la visite de délégués étrangers venus se renseigner sur ses pratiques. Des gens du Japon, de la Corée du Sud, de la France, énumère Hans Olsen. Une ressource pour les nouveaux arrivants. Depuis une quinzaine d'années, son équipe travaille notamment à rendre l'éducation sexuelle accessible aux nouveaux arrivants. C'est une réalité avec laquelle doivent composer de plus en plus les enseignants, et pas seulement en Suède. Comment parler de sexualité à un jeune migrant qui parle à peine la langue d'accueil? On ne peut pas présumer qu'il comprend tout ou qu'il vient d'un pays où l'éducation sexuelle est obligatoire depuis les années 1950, dit Sonja Gaderi, chef de projet à l'Association suédoise pour l'éducation sexuelle. Étalée devant elle, une pile de livres colorés destinés aux jeunes immigrants. L'éducation sexuelle en suédois facile, titre l'un d'entre eux. La Suède est le pays européen qui a accueilli le plus de migrants par habitant pendant la crise migratoire de 2015. Des dizaines de milliers de jeunes réfugiés avaient intégré les écoles. Vous écoutez l'éducation sexuelle à la suédoise, un texte de Léa Carrier, paru le 17 mars 2024 dans la presse. Heureusement, la majorité de notre matériel avait été produit avant la crise. Nous avions une bonne fondation, note Sonja Gaderi. Aux écoles, avec des classes d'accueil, l'Association suédoise pour l'éducation sexuelle offre un programme d'éducation sexuelle de 9 heures, divisé en 3 séances. Elle propose également des formations pour les enseignants qui travaillent régulièrement avec cette population. Ce n'est pas tout. Un glossaire exhaustif, traduit en 16 langues, est également disponible sur son site. Il est possible d'y trouver des expressions comme « histoire d'un soir »,« fétiche » ou « euphorie de genre », traduit en arabe, en somali ou en russe. Vous ne devriez pas avoir à attendre d'apprendre le suédois pour accéder à ces informations, estime Sonja Gaderi. La division en hausse. Récemment, l'Alberta a adopté un projet de loi rendant le consentement parental obligatoire en ce qui concerne l'éducation sexuelle. La même tendance s'observe ailleurs. Plusieurs pays occidentaux sont confrontés à une opposition de plus en plus forte à l'éducation sexuelle. Et, à plus petite échelle, la Suède n'y échappe pas. Il y a quelques groupes très vocaux. Ils proviennent de groupes religieux, mais aussi d'une certaine droite très nationaliste. C'est nouveau, observe Hans Olsen. Je ne dirais pas que c'est un gros problème, mais nous craignons qu'il ne le devienne davantage dans l'avenir, dit-il. Même son de cloche, du côté de l'Agence nationale pour l'éducation. Certains groupes sont plus critiques. De la désinformation circule en ligne sur le contenu du curriculum. Pour l'instant, cela n'affecte pas notre travail, mais c'est un signe des temps, conclut Teresa Fernandez-Long. Des leçons pour le Québec? Longtemps critiquée, l'éducation sexuelle s'améliore au Québec, mais des lacunes persistent. Et si les solutions se trouvaient en Suède? Former les enseignants. Au Québec, l'éducation sexuelle était abordée dans le cours de formation personnelle et sociale implanté en 1984. L'éducation sexuelle était devenue facultative en 2001. Elle est maintenant obligatoire dans les écoles primaires et secondaires depuis 2018. De manière générale, c'est de mieux en mieux, observe Caroline Simon, intervenante et coordonnatrice chez S'explique. Mais des lacunes persistent, dont le fait que de nombreux enseignants ne se sentent pas outillés pour mener ces discussions délicates avec les élèves. L'ajout d'une formation obligatoire pour les futurs enseignants, comme c'est le cas en Suède, serait-il une solution intéressante? Absolument, répond Madame Simon. Je pense que c'est essentiel, dit-elle. Un avis partagé par la sexologue Estelle Cazelet. Ça bénéficierait énormément aux enseignants et aux jeunes surtout, note la directrice du volet éducation à l'organisme Les Trois Sexes. Des organismes reconnus. Actuellement, il n'y a rien qui puisse se comparer à l'Association suédoise pour l'éducation sexuelle au Québec. Il existe bien une coalition d'organismes visant à promouvoir l'éducation sexuelle et du sexe, mais elle est loin d'avoir la même portée culturelle, estime Estelle Cazelet. Selon la sexologue, elle mériterait d'être davantage reconnue. Comme tous les organismes communautaires œuvrant en éducation sexuelle et qui disposent d'une panoplie de ressources et d'outils destinés aux enseignants. On a l'expertise au Québec. Maintenant, est-ce que c'est connu? Probablement pas assez, déplore-t-elle. Plus de cliniques jeunesse. Il existe déjà des cliniques pour les jeunes au Québec. Je ne crois pas que le réseau soit aussi gros qu'en Suède, note toutefois Estelle Cazelet. Mais cela change tranquillement. Mise sur pied il y a quelques années, les aires ouvertes visent à faciliter l'accès aux services d'aide en santé mentale et sexuelle aux jeunes de 12 à 25 ans. Ces nouvelles ressources, une trentaine réparties dans la province, regroupent plusieurs professionnels de la santé, dont une infirmière et une travailleuse sociale. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça commence, souligne Madame Cazelet. C'était « L'éducation sexuelle à la suédoise », un texte de Léa Carrier, paru le 17 mars 2024 dans la presse.
Éloge de la curiosité, un texte de Philippe Mercure, paru le 14 avril 2024 dans la presse. Je croyais bien être arrivé à la fin de mon entretien avec celle qu'on surnomme la grande dame des neurosciences, qui a eu la gentillesse de me recevoir chez elle. Je la remercie donc chaleureusement en rangeant calepin et enregistreuse quand je comprends que notre discussion, en fait, n'est pas terminée. Car maintenant que j'ai épuisé ma liste de questions, c'est à son tour de me poser les siennes. Qui d'autre avez-vous interviewé? Qui allez-vous interviewer ensuite? Est-ce que les scientifiques répondent de la même façon que les artistes, ou les sportifs et les gens d'affaires? Me bombarde-t-elle, les yeux brillants de curiosité. J'avais négligé l'insatiable soif de savoir de Brenda Miner. Quand je l'informe que j'ai interviewé pour cette même rubrique René Doyon, directeur de l'Institut de recherche sur les exoplanètes, elle montre un intérêt si vif pour la chasse à la vie extraterrestre que j'ai un moment l'impression de raconter un conte de fées à une petite fille. Pas étonnant que lorsqu'on demande à Brenda Miner de nommer les qualités qui lui ont permis de s'imposer comme l'une des plus grandes scientifiques du Québec, elle réponde par le mot qui guide toute sa vie. « La curiosité », s'exclame-t-elle sans aucune hésitation, « c'est le plus important ». Brenda Miner est connue pour ses découvertes sur la mémoire, mais son plus grand legs est peut-être sa méthode de travail. En étudiant des patients atteints de lésions cérébrales et en établissant des liens entre leur comportement et les structures du cerveau, elle a jeté les bases de la neuropsychologie. Même si plusieurs lui attribuent la maternité de cette discipline, elle refuse elle-même de se l'approprier. « C'est absurde, lance-t-elle. Nous avons été plusieurs. Le mérite ne revient jamais à une seule personne. » Elle écarte de la même façon les questions sur le prix Nobel. De nombreux scientifiques m'ont déjà confié estimer que la professeure Miner aurait dû le recevoir. Elle-même m'a raconté s'être déjà rendue à Oslo pour une sorte de réunion de sélection et avoir peut-être froissé les évaluateurs en allant magasiner au lieu d'écouter leurs allocutions. Mais elle ne veut pas revenir là-dessus. « J'ai eu assez de prix dans ma vie. » « Mon travail a été très bien reconnu, » dit-elle. J'avais rencontré la professeure Miner à l'occasion de son 100e anniversaire. À l'époque, elle se rendait encore plusieurs fois par semaine au Neuro, l'Institut hôpital neurologique de l'Université McGill, où elle a travaillé pendant des décennies. Depuis la pandémie, elle préfère recevoir les gens chez elle, dans l'appartement qu'elle occupe depuis 1959 au 8e étage d'un immeuble situé tout près de l'Université McGill. Derrière son fauteuil se déploie une impressionnante forêt de plantes. Plus loin, on aperçoit le Mont-Royal par la fenêtre. Des livres et des journaux occupent une bonne partie du salon. « Je suis bien ici. Le Neuro est à 7 minutes de marche, alors mes amis peuvent venir me visiter, » dit-elle. J'étais curieux de savoir comment la centenaire passe ses journées et occupe son esprit. Tous les matins, elle lit les journaux. Ses favoris sont The Gazette et le quotidien britannique The Guardian, où son père a été critique musical. Elle se fait un honneur de faire les mots croisés, en pestant lorsqu'il y a trop de références à la télévision, qu'elle ne regarde pas. Elle écoute ensuite la radio de la CBC, puis parle à des amis au téléphone ou les reçoit chez elle. « J'aime l'ambiance des nouvelles, de l'actualité, » dit-elle. Sa grande passion demeure le soccer, elle qui reste fidèle au club de sa ville natale, Manchester City. Ne faites pas la gaffe, comme je l'ai fait, de le confondre avec Manchester United. Un peu avant son 100e anniversaire, elle m'avait dit être étonnée de constater que la société attend des aînés qu'ils fassent preuve de sagesse, une qualité qu'elle disait ne pas posséder. À 105 ans, la sagesse l'a-t-elle finalement gagnée? « Oh non, » dit-elle en riant, « je ne suis pas plus sage. J'espère juste ne pas l'être moins. » Il est vrai que Mme Miner n'est pas du genre à professeur de grands enseignements du haut de son âge vénérable. Son discours est toujours très terre-à-terre. Son entourage, par exemple, m'avait dit qu'elle était à l'aise d'aborder le sujet de la mort. mais oubliez tout de suite les grandes envolées métaphysiques. Est-ce que je pense à la mort? Non, pas beaucoup. Sauf quand j'ai des questions comme les vôtres, me lance-t-elle avec un fin ton de reproche, rapidement suivi de ce rire qui ponctue régulièrement ses propos. Je n'ai pas de religion. Je pense que la mort, c'est la fin, ajoute-t-elle. Mais je n'ai pas hâte à la fin puisque je ne souffre pas. Si j'étais malade, si j'avais des douleurs, ce serait peut-être différent. C'est lorsqu'on parle de science qu'elle se livre le plus. En plus de la curiosité, elle exhorte les scientifiques à la patience, puisque les découvertes sont le fruit d'un travail méticuleux qui finit par payer à long terme. « Je n'ai jamais eu peur du travail, » dit-elle. Même quand j'étais jeune fille, le samedi, je prenais congé pour regarder le football. Mais le dimanche, je travaillais toute la journée. « Suivez votre curiosité, » conseille-t-elle encore aux jeunes scientifiques. « Suivez vos passions. Ici, les institutions pour lesquelles vous travaillez ne vous permettent pas de suivre vos intérêts. Ne restez pas prisonnier. » « A-t-elle des regrets ?» Elle réfléchit avant de répondre par la négative et un grand sourire. Défiant les recommandations de santé publique, Brenda Miner continue de boire son verre de vin tous les jours. Sa longévité, elle l'attribue à sa génétique. Et peut-être à la qualité de son sommeil, elle qui dit avoir toujours dormi comme une souche, même après un double espresso. Nous nous sommes quittés sur la promesse de nous revoir dans 5 ans. À voir la forme qu'affiche Brenda Miner, je prépare déjà mes questions. Et cette fois, je saurai qu'il me faut aussi répondre aux siennes. Qui est Brenda Miner? Née à Manchester, en Angleterre, en 1918, sous le nom de Brenda Langford. Déménage à Montréal en 1944 avec son mari, Peter Miner. En étudiant les patients du Dr. Wilder Penfield, elle fait des découvertes fondamentales, notamment le fait qu'il existe plusieurs types de mémoire relevant de différentes parties du cerveau. Elle a reçu de nombreux prix internationaux, dont le prix Gairdner et le prix Kavli. Elle est aussi compagnon de l'Ordre du Canada, grande officière de l'Ordre national du Québec et grande montréalaise. C'était « Éloge de la curiosité ». Un texte de Philippe Mercure paru le 14 avril 2024 dans La Presse.